Bonjour les amis. Parfois une petite étincelle peut tout changer. Métamorphose, c'est cette étincelle que nous partageons ensemble épisode après épisode. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener un peu plus loin. Chaque semaine, dans les coulisses du podcast, on s'active pour préparer avec beaucoup de cœur la newsletter des petits et grands changements. Un moment suspendu, pensé comme une bulle d'inspiration que je dépose délicatement, enfin j'espère, dans votre boîte mail tous les mercredis matins. Dedans, vous y trouverez mes inspirations du moment, des contenus exclusifs autour de nos invités, des recettes bien-être et bien d'autres surprises. Pour vous inscrire, rendez-vous dès maintenant à l'adresse métamorphosepodcast.com et pour vous souhaiter la bienvenue, vous recevrez dès votre inscription un petit cadeau, le livret Métamorphose, 36 pages de conseils d'experts pour éveiller votre conscience et faire grandir votre lumière intérieure. J'ai vraiment hâte de vous retrouver de l'autre côté de l'écran, dans votre boîte mail. Alors les amis, vous le savez, sur Métamorphose, la santé mentale des femmes est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'en parle souvent ici parce qu'il me semble essentiel de reconnaître ce que vivent tant de femmes, souvent dans le silence. En 2024, ce sont 63% d'entre elles qui se disent en souffrance psychique, un malaise qui s'intensifie après 50 ans entre solitude, sentiment d'inutilité parfois et ménopause, des sujets qui sont encore trop tabous. Aujourd'hui, la santé mentale des femmes fait pleinement partie de la mobilisation du gouvernement qui est sponsor de cet épisode à travers ses actions pour l'égalité femmes-hommes, toutes et tous égaux. Alors non, il ne suffit pas juste de tenir bon ou de se reprendre en main. En parler, se faire aider, c'est un réflexe de santé, pas un aveu de faiblesse. Des solutions existent, comme mon soutien psy, ou alors le 3114, qui est un numéro national de prévention du suicide. Pour tout savoir, rendez-vous sur santémentale.gouv.fr. Ensemble, parlons santé mentale et avançons vers une société plus juste et bienveillante. Bienvenue dans le best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Vous êtes du genre à vérifier 5 fois que votre maison est bien fermée avant de partir, ou alors imaginez sans cesse le pire. Vous vous faites peut-être des scénarios catastrophes, ou même avez-vous des phobies irraisonnées, voire excessives, la peur des autres par exemple. Peut-être que vous faites partie des 21% de personnes touchées par des troubles anxieux, des troubles qui ont grimpé de 25% depuis la pandémie de Covid. Angoisse, insomnie, cœur qui cogne, hypochondrie, agoraphobie, rumination, hypercontrôle, autant de formes d'anxiété qui n'ont plus de secret pour mon invité, lui qui les côtoie chaque jour dans son cabinet depuis 40 ans. Fort de son expérience et de son expertise, ce médecin psychiatre et psychothérapeute enseignant à l'Université de Lyon, auteur de nombreux best-sellers, a décidé de désamorcer ce sujet en décortiquant tous ses mécanismes avec, non sans humour, je dois dire, à travers une bande dessinée pleine de clins d'œil et de références cinématographiques avec lui. Plongeons dans le club des anxieux qui se soignent, titre de son livre aux éditions des Arènes. Bonjour Frédéric Fanger.
Bonjour Anne.
Bonjour docteur. Alors je suis ravie de vous accueillir dans Métamorphose. Ça va, vous n'êtes pas trop anxieux pour cette interview. J'imagine que l'anxiété, c'est quelque chose que vous côtoyez au quotidien.
Je l'ai eu lors de mes premières interviews, en particulier lors de mes premières télévisions. Je me souviens avec Jean-Luc Delarue à Ça se discute, à France 2, il y a une vingtaine d'années. Je dois dire que j'étais quand même assez stressé. Mais maintenant, effectivement, on le dira d'ailleurs, avec l'habitude, en répétant les mêmes actions, on arrive à beaucoup mieux gérer son anxiété.
Vous étiez une personnalité anxieuse, c'est pour ça que vous êtes intéressé en tant que médecin psychiatre au sujet ou pas particulièrement? Vous aviez une anxiété, je dirais, plus normale?
Si vous voulez que je parle de moi, c'est pas une personnalité vraiment anxieuse, mais je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureux, assez exigeant, assez perfectionniste, et donc on a une anxiété de performance puisqu'on veut bien faire les choses dans ces cas-là. Donc, lorsqu'on est soumis à des échéances importantes, je me souviens par exemple de mon concours de première année de médecine, j'avais tellement envie d'être médecin, tellement envie de réussir, que j'avais quand même un certain niveau d'anxiété. Alors effectivement, d'ailleurs, c'est assez bien d'avoir connu soi-même un petit peu l'anxiété pour en parler après avec nos patients, surtout quand on a un petit peu réussi à la dépasser. Mais on va le dire, de toute façon, l'anxiété est un phénomène qui touche tout le monde, ça fait partie de la vie, on va dire qu'elle a des très bons côtés, l'anxiété, elle nous protège, elle évite les dangers. Simplement, il y a des personnes chez qui elle prend des proportions, et là, on va vraiment parler de troubles anxieux.
Voilà, alors effectivement, avant de complètement démarrer, je rappelle que votre livre, Le Club des Anxieux qui se soignent, cette bande dessinée que vous signez avec deux co-autrices, Catherine Meyer et Pauline Aubry, vous approchez ce thème par la bande dessinée, ce qui est original, c'est une sorte de mini-thérapie éclairante qui fait du bien, dit votre préfacier, mais c'est un livre thérapeutique et sérieux sur toutes les formes d'anxiété, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée, il y a de l'humour, mais c'est quand même, évidemment, ça vient de votre expérience et de la clinique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire sous cette forme-là, d'ailleurs ?
D'abord, parce que Catherine Meyer, que j'avais connue en éditant mes premiers livres, me l'a proposé. Et ensuite, parce que on constate que beaucoup de personnes actuellement, par exemple ceux qui ont des troubles de l'attention, etc., ont des difficultés à lire un livre complet. Moi, souvent, en consultation, pour mes précédents livres, j'avais une série de questions. Je leur disais, alors, est-ce que vous avez acheté le livre ? Oui, je l'ai acheté, docteur. Est-ce que vous l'avez ouvert ? Deuxième question. En général, on me répond oui. Est-ce que vous avez lu au moins une page ? Beaucoup encore me répondent oui. Est-ce que vous avez lu un chapitre ? Il y en a déjà beaucoup moins qui me répondent oui. Et si jamais vous demandez est-ce que vous êtes allé au bout du livre, il y a la plus grand monde qui vous répond oui. L'avantage de la BD, c'est que je pense à quelqu'un de mon entourage à qui je l'ai donné, qui m'a dit très gentiment, écoute, je dois être franc avec toi, j'avais jamais lu tes livres jusqu'au bout parce que je suis incapable de me concentrer sur un livre. Par contre, la BD, je l'ai lu en une soirée. Donc déjà ça, cet accès facilitant, je pense pour toute une série de personnes, en particulier je pense à la jeune génération, qui ont bien l'habitude aussi de lire des BD. D'autre part, alors moi à titre personnel, puisque vous citez Catherine Meyer, qui est une scénariste de grand talent, avec qui j'avais déjà travaillé, et Pauline Aubry, la dessinatrice, moi j'ai trouvé ce travail en équipe remarquable, parce que si vous voulez, on construit un scénario avec la scénariste, donc je donne le fond, on discute des messages, elle donne tout son art de la phrase, du propos, et une fois que notre scénario est au point, on fait venir la dessinatrice qui, elle, va encore introduire un troisième outil avec le dessin qui va faire passer encore des messages, et donc à chaque fois on va discuter, est-ce que c'est le bon message ou c'est pas le bon, je vais dire oui, non, et puis elle m'a proposé des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Par exemple, elle me transforme
dans... c'est vrai que c'est sympa.
Dans un judoka, on va peut-être en parler pour gérer les pensées négatives. Et ça, c'est très fort comme image, parce que il faut pas lutter contre nos pensées négatives quand on est anxieux. Il faut apprendre à vivre avec. Et vous savez, le judo, un judoka, il utilise la force de l'adversaire. Il cherche pas à renvoyer de la force. Et c'est exactement cette position qui m'a été proposée par Pauline Aubry que j'utilise depuis 30 ans en thérapie.
Alors évidemment, on va parler de tout ça longuement. Avant d'arriver aux stratégies, on va essayer de mieux définir les différents types d'anxiété. Vous l'avez dit, être anxieux, c'est normal, voire même utile. C'est vraiment un mécanisme du cerveau qui permet d'être en état d'alarme face au danger, donc réactif. Il y va quand même de la survie de l'espèce d'avoir ce mécanisme. Le problème, c'est lorsque le système d'alarme se dérègle, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ?
Alors, il faut comprendre que, effectivement, dans l'anxiété, vous avez un dérèglement du cerveau. On verra aussi qu'il y a d'autres causes, des causes psychologiques. C'est en fait, dans notre cerveau, il y a un système d'alarme qui s'appelle l'hypothalamus, comme l'alarme d'une maison, et il est réglé un petit peu trop haut, ou comme un thermostat de chauffage, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens qui ont un trouble anxieux, ils vont se mettre dans une situation de peur face à des dangers tout à fait minimes pour lesquels d'autres personnes qui ont un système d'alarme bien réglé ne se mettraient pas dans une situation de peur. Donc, ils ont une espèce de hypersensibilité à la peur, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler lorsqu'on va les prendre en charge pour abaisser un petit peu ce seuil d'hypersensibilité, abaisser cette alarme biologique. Alors, effectivement, il y a un autre aspect qui est tout aussi important que l'aspect psychologique. Il faut bien comprendre que dès qu'on parle d'anxiété, on parle à la fois de neurosciences de cerveau, mais on parle aussi de psychologie. D'ailleurs, dans le traitement, on verra qu'on parle de médicaments et on parle de psychothérapie. Il y a toujours ces deux versants, il n'y a pas de différence du tout entre le corps et l'esprit, puisqu'on sait bien que vous avez des connexions nerveuses qui partent du cerveau et qui vont aller sur l'intestin, par exemple, donner une accélération du trouble des troubles de transit intestinal chez les anxieux, etc. Donc, les phénomènes psychologiques, je les définirais de manière très simple comme une maladie de l'anticipation et des ruminations permanentes. Une maladie de l'anticipation, ça veut dire que les anxieux, en fait, ils ont cette caractéristique qu'ils vivent tout à l'avance. Et en général, ils vivent les films de ce qui va leur arriver ou des décisions qu'ils auront à prendre plusieurs fois. Ils préparent, ils imaginent. Souvent, d'ailleurs, ils imaginent de manière catastrophique les choses. Par exemple, si vous prenez une personne qui souffre d'une agoraphobie et qui ne peut pas prendre les transports en commun, avant même d'aller le prendre, elle va se faire tout un scénario catastrophique. Vous parliez dans l'introduction de l'anxiété sociale, des gens qui ont cette peur des autres, qui peuvent avoir peur de prendre la parole, par exemple, dans une réunion professionnelle. Ça, on m'apporte très souvent ça en séance de thérapie. Eh bien, ils vont se faire des scénarios catastrophes pendant plusieurs jours, le soir, ne pas s'endormir. Vous avez le fameux syndrome du dimanche soir chez les lycéens et les étudiants qui ont tellement peur d'aller reprendre leurs études le lundi matin, voyez. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on va un petit peu s'épuiser dans ces anticipations parce que c'est de l'énergie, hein, l'énergie mentale, le fait de ruminer, de penser, d'anticiper, on a beaucoup d'énergie. Avant, ils anticipent. Une fois qu'ils sont dedans, ils ruminent. C'est-à-dire, est-ce que, donc il y a une rumination avant, c'est l'anticipation, il y a une rumination pendant. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et puis il y a une troisième rumination qui est après. Oh là là, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Est-ce qu'il faut pas que je vérifie? Vous parliez des vérifications. Vous voyez? Donc, c'est un cerveau qui est en ébullition permanente. Mais à la différence d'autres cerveaux en ébullition permanente, comme on voit, par exemple, chez les gens qui ont un fonctionnement à haut potentiel, eh bien, l'anxieux, lui, ses pensées, elles sont systématiquement négatives et catastrophiques. Alors que les personnes qui présentent des fonctionnements à haut potentiel, je dis bien fonctionnement à haut potentiel parce que c'est pas une maladie, hein, eux, ils vont vous dire qu'ils pensent tout le temps, mais pour tout, pas nécessairement négativement, pour tout comprendre, pour tout décortiquer, etc. L'anxieux, lui, malheureusement pour lui, sa pensée, elle est en permanence négative. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des liens entre le cerveau et le corps, cette pensée en permanence négative, elle va se répercuter sur son corps, et très souvent, nos anxieux, ils vont avoir des troubles digestifs, des troubles de concentration, des insomnies, des douleurs à droite à gauche. Les médecins trouveront rien au bilan, se demanderont ce que c'est, et finiront par l'envoyer chez le psychiatre en disant c'est un tableau anxieux. Vous voyez, vous avez un ensemble de mécanismes à la fois cérébraux et corporels.
Alors justement, c'est intéressant parce que là, vous parliez des HPI, sachant que j'imagine bien qu'on peut être aussi HPI et anxieux. D'ailleurs, vous avez comparé le fonctionnement du cerveau, mais l'un n'empêche pas l'autre par ailleurs.
Exactement, hein. Il faut bien concevoir que le HPI, c'est un fonctionnement, c'est pas une maladie. Il y a énormément de gens qui ont un fonctionnement HPI. Et ce que je disais surtout, c'est qu'une des caractéristiques, mais il y en a d'autres hein, d'ailleurs, c'est qu'ils ont un cerveau qui va très très vite, des pensées qui vont très vite, ils sont capables d'analyser les données très rapidement. Alors que l'anxieux, disons, qui peut être HPI ou pas, c'est autre chose, c'est un trouble, on est à un autre niveau. Lui, il va avoir un cerveau qui va vite aussi, mais qui surtout est tourné vers le négatif, surtout vers l'anticipation négative. Et il a pas nécessairement un cerveau qui va vite, simplement il a une pensée abondante. Parce que, au lieu d'arriver tranquillement dans les situations de vie, comme ferait quelqu'un de pas anxieux, d'aller tranquillement au travail, d'aller tranquillement prendre la parole à la réunion d'équipe, d'aller tranquillement prendre ses transports, lui, il va y penser à l'avance. Il prépare mentalement toutes ses activités. En fait, je dis souvent, l'anxieux vit plusieurs fois sa vie. Il va la vivre 10 fois en film, en anticipation, avant de la vivre une fois réellement.
Ouais, c'est une bonne métaphore. Vous dites d'ailleurs, à propos de l'anxiété normale, que c'est quand on a des soucis qui sont contrôlables. Alors là, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on met le curseur par rapport à cette idée de contrôle, justement.
Alors, les soucis contrôlables, ça veut dire que... Il y a plusieurs réponses à ça, mais ça veut dire que le souci, la pensée, débouche sur une action. C'est sûr, le mot contrôlable... On va le nuancer parce qu'il faut pas aller dans l'hyper-contrôle non plus. Mais ce que c'est je dirais, ça. C'est que le bon souci, c'est celui qui débouche sur une action. Alors, je peux vous parler de travaux scientifiques un peu modernes qui ont bien expliqué ça, avec des mots un peu abstraits, mais je vais tout de suite les expliquer. Ils ont décrit deux types de pensées ruminatives. La première, c'est ce qu'ils appellent les PAA, les pensées analytiques abstraites. Ça veut dire que, vous savez, c'est quand on pense dans notre tête, ça tourne en boucle, on se questionne sans fin. En général, on se pose des questions sans réponse. Est-ce que je vais m'en sortir de cette anxiété? Et comment ça se fait que je suis comme ça? Et est-ce que ça vient pas de mon enfance? Alors qu'on est, on est plus dedans. Et ces pensées analysées à straight, elles sont sans réponse. Elles vont se répéter, se répéter, se répéter à l'infini, puisqu'elles n'ont pas de réponse. Et l'autre caractéristique qu'elles ont, c'est qu'elles créent des émotions négatives, surtout de l'anxiété, parfois même de la dépression. Et elles débouchent sur rien. Elles débouchent pas sur une solution, sur une résolution de problème. Donc, elles vont revenir le lendemain. Il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent. Et ils disent que, en thérapie, ces spécialistes, et je l'ai appliqué souvent, c'est assez intéressant, il faut transformer, dès qu'on a une pensée analytique abstraite, par exemple, si on est dépendant à l'alcool, pourquoi je bois? Il faut remplacer cette pensée analytique abstraite par une pensée concrète expérientielle, une PCE, concrète expérientielle, ça veut dire tout simplement, c'est un grand mot de psy, pour dire que notre pensée va déboucher sur une action ou sur un plan d'action. Je reprends l'exemple de mon monsieur qui boit trop, et je vais lui dire, écoutez, la question pourquoi vous buvez, elle est sûrement complexe, on y passera quelques heures de thérapie pour essayer de comprendre, je vous le promets, mais là, dans l'immédiat, est-ce que vous pouvez pas remplacer cette pensée par qu'est-ce que je vais faire en sortant de chez vous, docteur, dès ce soir, en arrivant chez moi, pour moins boire? Bah, peut-être, vous n'allez pas passer au café où vous allez d'habitude avec les copains pour prendre l'apéro. Ou peut-être, vous allez négocier avec votre femme, si elle est d'accord, d'enlever un certain nombre de bouteilles d'alcool de la maison. Enfin, il y a des solutions concrètes. Et ces pensées concrètes, elles ont un autre avantage, en dehors du fait qu'elles débouchent sur une solution. Bon, chacun trouvera les solutions qui lui conviennent, bien sûr. C'est qu'elles ne créent pas d'émotions négatives. Donc, c'est un espèce de mini-traitement de l'anxiété, si vous voulez.
Oui, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je pense à une émission que j'avais faite sur la méthode AA des alcooliques anonymes, où dans les 12 étapes, je crois qu'à un moment, justement, il y a une étape de passage à l'action, comme ça, où il se passe quelque chose. On est vraiment dans le concret. Donc ça, c'est...
Quand les gens sont motivés. Quand les gens motivés à se traiter, on passe au concret. Avant, on travaille sur les motivations, avantages, inconvénients de continuer à boire, avantages, inconvénients de ne pas boire. Enfin, il faut ce qu'on appelle le stade pré-contemplatif. On n'agit pas tout de suite. On attend de voir que les gens soient vraiment motivés et décidés à passer à l'action. Mais effectivement, il y a un stade de passage à l'action. Et après, le stade suivant, c'est la prévention de la rechute. Mm-hmm. C'est pas anodin comme discussion parce que, entre parenthèses, on a beaucoup d'anxieux qui sont dépendants à l'alcool ou dépendants aux benzodiazépines, hein. Tiens, puisque vous me posez cette question, c'est important, j'avais pas prévu de vous en parler, mais moi j'ai quand même beaucoup de patients qui arrivent accoutumés aux anxiolytiques, parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur anxiété avec des méthodes non médicamenteuses. Et en plus, les anxiolytiques, c'est pas les bons médicaments, on le verra. Il y a des bons médicaments pour l'anxiété, mais ça convient pas à tout le monde, tout le monde doit pas en prendre. Mais en France, on a un peu tendance à sauter vite sur l'hypnotique ou l'anxiolytique, ou l'alcool, ou même maintenant d'ailleurs d'autres dépendances, hein. Il y a beaucoup de produits toxiques qui sont pris. Et je vois beaucoup d'anxieux qui cherchent à se calmer avec l'alcool, avec le hashish, avec les drogues, avec les calmants, mais qui du coup font jamais un travail de compréhension de ce qu'on est en train de faire, comment fonctionne l'anxiété, et du coup comment la prendre en charge par moi-même, sans dépendre de quelque chose d'extérieur. Donc la complication de l'alcoolisme n'est pas rare dans l'anxiété.
Oui, évidemment, on reviendra dessus parce que vous dites bien dans le livre que les anxiolytiques, ils ont d'ailleurs une prescription qui en général n'excède pas 12 semaines, qui doivent être une béquille momentanée, mais ne pas tomber dans cette dépendance à long terme.
Oui.
Alors aujourd'hui, on sait qu'avec le Covid, et je le disais en intro, l'anxiété s'est fortement développée. Quelle forme d'anxiété, du coup, vous rencontrez le plus dans le contexte actuel, à la fois post-pandémique, guerre en Ukraine, éco-anxiété, avenir incertain. Est-ce que vous avez plus de patients, par exemple, hypochondriaques qu'avant? Ou quelle forme d'anxiété vous retrouvez?
Alors, l'anxiété a quand même toujours été un trouble très fréquent. Bien avant le Covid, on décrivait les troubles anxieux comme les trois grands premiers troubles psychiatriques, hein, avec les troubles dépressifs et les addictions, justement. Voilà, donc ça a toujours été fréquent. Ceci étant dit, il est vrai que le Covid et surtout le confinement ont soit déclenché des tableaux anxieux chez des gens qui n'en avaient pas avant, soit aggravé des troubles anxieux chez des gens qu'on avait déjà. J'ai par exemple plusieurs patients qui étaient en pleine thérapie, qui étaient en train de faire des exercices pour reprendre les transports en commun, comme par exemple le personnage de la BD qui s'appelle Mona, qui ont complètement régressé parce qu'on avait fait beaucoup de progrès, on avait arrivé à reprendre le transport en commun et le Covid a tout arrêté. Après, pour être très franc, je dois dire aussi, et il faut le signaler, que certains patients, au contraire, été améliorée par l'enfermement lié au Covid, ce sont les patients qui souffrent d'anxiété sociale ou les introvertis. Et là, j'en profite pour dire une chose qui me paraît importante, hein, que je dis souvent, parce que moi, j'ai beaucoup de patients introvertis, beaucoup d'hommes introvertis qui souffrent, qui sont en grand état de souffrance, parce qu'ils trouvent que c'est pas viril, l'introversion. Il y a quand même, il faut bien reconnaître socialement, un plaidoyer pour l'extraversion. Les extravertis sont plus facilement pris. Il y a des études qui le montrent en entretien d'embauche, etc. Donc, je peux vous dire que les introvertis souffrent beaucoup de leur tempérament. Et moi, je passe mon temps quand même à dire d'abord que j'avais écrit d'ailleurs plusieurs articles sur le sujet, que l'introversion a plein de qualités aussi. C'est pas qu'un défaut, hein. Souvent, grand sens de l'écoute, grande capacité à réfléchir. Et surtout, je dis aux gens, attendez, si vous avez un tempérament introverti, vous avez le droit, et vous n'êtes pas obligé de subir le diktat qui remplit les médias actuellement, que le bien-être est dans le rapport aux autres. Moi, mes patients qui souffrent d'anxiété sociale, qui sont introvertis, ils sont pas du tout bien avec les autres. Et ils étaient très heureux de rester enfermés chez eux et de voir personne et de tout régler par Internet et en visioconférence. Ils étaient très, très contents. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui continuent à demander à l'entreprise à rester à travailler à distance. Alors, ils vont pas dire à l'employeur que c'est parce qu'ils ont une anxiété sociale, mais je peux vous dire que ça les arrange bien. Donc, ça, c'est un petit peu dit au passage, parce que on est un peu dans une société de bonheur obligé, on est un peu dans une société où il y a des règles, on devrait être comme ci, comme ça, extraverti, donc j'en profite pour vous dire ça.
Très bien, oui, intéressant. Alors, peut-être pour y voir à nouveau clair sur nos définitions, stress, anxiété, angoisse, peut-être on peut un peu mélanger un peu tout ça. On aimerait y voir un peu plus clair. Comment savoir à quoi on a affaire? Comment les différencier peut-être même au niveau des symptômes? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Ah ben, je vais vous les définir parce que c'est pas la même chose.
Absolument.
L'anxiété, c'est une émotion vécue à l'intérieur de nous. Donc, c'est un problème de l'individu. Le stress, c'est un problème d'adaptation d'un individu par rapport à son environnement.
C'est une réponse physiologique, hein, c'est ça?
C'est une réponse physiologique décrite par Hanselier de l'organisme qui passe par les surrénales avec des sécrétions d'adrénaline et tout pour s'adapter dans le stress aigu à un danger, c'est-à-dire faire face à un danger immédiat. Heureusement que on a du stress qui accélère notre rythme cardiaque, qui ramène du sucre dans mène nos muscles en route, sinon on démarrerait pas. D'ailleurs, le coureur de 100 mètres dans les starting blocks, s'il est pas stressé, il partira après les autres, hein. Donc, il a intérêt à monter son rythme cardiaque, à être stressé. Par contre, le stress aigu, c'est vraiment une réaction d'adaptation au danger de la vie, hein. C'est parce que l'homme est stressé, que l'homme des cavernes a survécu, qu'il se faisait pas voler son feu, mais il dormait pas la nuit pour pas se faire voler son feu, l'homme des cavernes. Donc, sans stress, c'est pareil, il était mort. Sans stress, vous traversez la route sans regarder, vous êtes mort. Par contre, le problème du stress, c'est quand il devient chronique. C'est-à-dire quand vous êtes stressé tous les jours, et pour tout. C'est-à-dire que les événements de la vie vous stressent. Votre travail vous stresse, vos rapports avec vos voisins vous stressent, vos rapports conjugaux vous stressent, vos enfants vous stressent, tout vous stresse. Là, ça devient un problème. Mais le stress, ça va se traiter en aidant l'individu à s'adapter aux événements de vie, aux facteurs environnants. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux parler d'éco-stress que d'éco-anxiété. J'entends beaucoup parler d'éco-anxiété. Je sais pas s'il vaudrait pas mieux dire éco-stress. C'est moins joli, je comprends. Mais finalement, l'écologie, c'est quelque chose qui nous entourne. Alors que je suis en train de vous dire que l'anxiété, c'est interne à l'individu. Écoutez, c'est pas interne à l'individu. Si la planète brûle, c'est pas de notre faute quand même, hein. Enfin, c'est pas de notre faute. Je veux dire, c'est pas interne à nous. C'est un phénomène environnemental, comme la guerre ou comme autre chose. Donc, c'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. Donc, le stress, on va vraiment faire un programme d'adaptation. On va dire aux gens, garder le bon stress, parce qu'il y a un bon stress et laisser le mauvais. Essayer de gérer l'environnement. On a toute une série de méthodes en thérapie comportementale et cognitive de gestion de stress, des programmes qui marchent très bien. Tandis que l'anxieux, on va traiter l'individu lui-même. On va traiter sa façon, son rapport à ses pensées. On va traiter son rapport à son corps. On va lui proposer des techniques corporelles. Je pense qu'on va en reparler.
Bien sûr.
Vous voyez, c'est pas la même chose.
D'où vient cette anxiété? Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, extérieurs quand même aussi? Est-ce qu'on sait aujourd'hui d'où elle vient? Et puis, la bonne nouvelle quand même, c'est que vous dites on peut guérir d'anxiété. J'avais envie peut-être de le dire aussi, hein, on n'est pas au démarrage de l'interview, mais il y a beaucoup de choses à faire, hein.
Alors, je commence par guérir et je viendrai aux causes après, Anne, parce que là, vous m'avez posé deux questions.
Je vous ai posé deux questions.
Guérir et causes. Alors, on commence par guérir. Parce que, alors, le mot guérir, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que guérir d'un état anxieux. Si on parle d'une anxiété sévère et intense, hein, comme il y a des exemples dans la bande dessinée, il y a plusieurs personnages qui ont quand même soit des troubles anxiété généralisés, soit des agoraphobies avec troubles paniques, etc. Ce qu'on appelle guérir, c'est redonner une autonomie et une indépendance au sujet par rapport à son anxiété. Je peux vous résumer ça en une phrase. Ce n'est plus l'anxiété qui guide leur vie, mais eux, ils apprennent à vivre avec leur anxiété. Pourquoi ils apprennent à vivre avec leur anxiété? Ils sont plus en lutte contre l'anxiété, parce qu'ils ont réussi à la contrôler, entre guillemets, en tout cas à la gérer en partie. On y reviendra là encore, grâce aux techniques de modification de pensée, de ce qu'on appelle les techniques cognitives, grâce à des techniques émotionnelles, ils ont appris à gérer leurs émotions, grâce à des techniques comportementales, on y reviendra tout à l'heure, je présume. Donc, ils sont plus sans ressources face à l'anxiété. C'est un phénomène qu'ils ont compris, qu'ils connaissent, on leur a expliqué, et ils ont des moyens de faire face. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils seront plus jamais anxieux. Et alors, on parlait tout à l'heure des gens qui arrivent accoutumés aux anxiolytiques. Au début de ma carrière, je peux vous dire, j'ai vu des doses, avant qu'on comprenne qu'il y a d'autres médicaments d'anxiété qui sont efficaces, on en parlera aussi, qui sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui eux sont bons pour, dans un certain nombre de cas, quand l'anxiété est très intense, on donnait beaucoup d'anxiolytiques. Moi, j'ai vu des gens qui prenaient des doses monumentales. Et en fait, effectivement, avec ces doses d'anxiolytiques majeures, ils avaient plus du tout d'anxiété. Ils assommaient littéralement leur anxiété. Mais du coup, ils vivaient plus rien émotionnellement.
Ouais, ça change la personnalité.
Et quand on les traitait, en tout cas, ça change la vie émotionnelle. Émotionnellement, ils ressentaient plus grand chose. Et quand on les traitait, j'ai fait beaucoup de sevrage aux benzodiazépines pendant des années. Essayer d'arrêter, croyez-moi, c'était pas facile quand ils étaient habitués depuis longtemps. Eh bien, ils voulaient plus du tout entendre parler d'anxiété. Ils avaient toutes les peines du monde parce qu'ils ne supportaient plus la moindre anxiété. Donc, c'est là qu'il faut pouvoir dire aux gens, attendez 2 secondes. L'anxiété, quand elle n'est pas trop destructrice, il faut apprendre à vivre avec. Il faut vous y habituer. Il y a des situations de vie dans lesquelles il est normal d'être anxieux. Donc, acceptez une certaine dose d'anxiété et apprenez à la contrôler quand elle est trop importante. Vous me posiez une deuxième question, Anne, en dehors de celle du traitement, qui était celle des causes de l'anxiété.
Oui.
Alors, bon, je ne veux pas vous répondre de manière formelle. Vous savez qu'en médecine et en science, on est rarement totalitaire en disant on sait ou on ne sait pas. On sait des choses, mais on ne sait pas tout. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Selon la personne, d'ailleurs, ce ne sera pas toujours les mêmes. Donc, ce que je vais dire là, c'est une généralité, mais selon les gens, il y a des facteurs qui seront plus importants que d'autres. Je crois qu'il faut en retenir 4 grands pour poser des choses simples et claires pour vos auditeurs. Le premier, c'est un facteur biologique, effectivement. On a des travaux comme ceux de Jérôme Kagan qui montrent que des enfants en très bas âge sont très sensibles dès qu'on leur change la couleur d'une peluche ou d'un jouet, par exemple, avec des réactions qui ont été mesurées, justement, des réactions d'adrénaline, de stress qui sont beaucoup plus importante que j'ai d'autres enfants qu'on a mis dans la même expérience. Donc, il y a un phénomène qu'on pourrait appeler de tempérament biologique. Aucune des 4 causes que je vais donner maintenant ne suffit à elle seule à expliquer l'anxiété. Il faut bien comprendre que les choses vont s'agréger. Il y a, chez certaines personnes, des facteurs éducatifs. Par exemple, une pression excessive, familiale, une surprotection, ne développant pas la confiance en soi de l'enfant et sa capacité à résoudre le problème. Attention, prends soin de toi, sors pas ce soir, il y a des dangers partout. Ça peut se transmettre, l'anxiété, aussi de manière psychologique. Si vous êtes élevé dans un milieu de parents anxieux, ben, il y a des chances pour qu'on vous transmette l'anxiété. C'est d'ailleurs un des motifs fréquents de consultation des femmes qui viennent me dire « je ne veux pas transmettre mon anxiété à mon enfant ». Et je leur réponds d'ailleurs « si vous vous traitez bien, vous ne la transmettrez pas ». Surtout si vous avez une certaine distance par rapport à votre anxiété. C'est-à-dire si vous êtes capable de parler de l'anxiété à l'enfant en lui disant que l'anxiété, c'est pas vous. Vous n'êtes pas que l'anxiété. La 3e cause sont des traumatismes qui sont très courants et dont, heureusement, on parle enfin, comme le harcèlement scolaire, que je trouve avec une très grande fréquence chez mes patients au bout de 10 ou 15 séances quand on arrive à les faire verbaliser, à faire revenir les souvenirs d'enfance à la mémoire. Ils vont se rappeler que s'ils ont peur maintenant de prendre la parole à la réunion d'équipe, à leur travail, c'est parce que petits, ils ont eu une attaque de panique en passant au tableau la première fois. ils vont se rappeler que s'ils ont de la peine, parce qu'ils souffrent d'anxiété sociale maintenant à se faire des amis, c'est peut-être parce que petits, ils ont été harcelés dans une cour d'école, etc. Ces facteurs traumatiques sont très importants à dépister par le psy et à prendre en charge parce qu'on a des méthodes de thérapie spécifiquement adaptées. Donc, un, la biologie, deux, l'éducation, trois, les traumatismes, et quatre, la condition humaine. Alors ça touche tout le monde. Ce que vous entendrez toujours quand vous discuterez avec des anxieux, si vous les poussez un peu dans leur retranchement, c'est que ce qui est derrière, c'est l'angoisse de la mort. Et ça, c'est vrai pour tous les troubles anxieux. Donc, il y a un rapport à la mort à travailler dans les thérapies.
Oui, sur l'angoisse de mort, d'ailleurs, c'est inhérent à notre condition humaine, avec plus ou moins de variabilité sur cette peur de la mort. Je me posais la question en vous écoutant, est-ce qu'on peut ignorer un certain moment de sa vie que nous sommes angoissés ? C'est-à-dire que comme c'est justement, comme vous l'avez très bien expliqué, intérieur, et qu'on peut avoir depuis qu'on est enfant ce rapport au monde avec cette angoisse, cette anxiété intérieure, est-ce qu'on peut finalement, si on ne manifeste pas des symptômes très forts, on va en parler, des phobies ou des TOC, etc., est-ce qu'on peut finalement ne pas l'avoir complètement conscientisé et que ça se révèle ou se réveille un peu plus tard ?
Ça se peut, quand les gens ont de la chance, qui vivent des choses agréables, qui masquent leur anxiété. C'est toutefois pas le cas le plus fréquent, Ron. Chez les patients anxieux, la plupart du temps, quand vous les interrogez, vous retrouvez un tempérament anxieux dans l'enfance.
On le retrouve déjà. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le trouble anxieux généralisé. Ce serait peut-être bien d'expliquer un peu plus ce que c'est pour qu'on voit par rapport à, en tout cas, au stress, aux autres notions qu'on vient d'expliquer, ce que c'est, comment ça se manifeste.
Le trouble anxieux généralisé, c'est un des troubles anxieux les plus fréquents qui touche 6% de la population. Pour parler simple, je vais vous dire, c'est des gens qui sont inquiets pour tout et tout le temps. Ils ont peur de tout, tout le temps. Donc, l'inquiétude est permanente et elle est multithème. Ils s'inquiètent pour tout, l'argent, la santé, ils ont beaucoup d'hypocondrie, des choses comme ça, les enfants, la famille. Ça fait la différence avec le trouble panique, lui aussi très fréquent, mais qui lui survient par accès. Les gens qui font des crises d'attaque de panique, ça dure 2 heures, c'est très violent, ils ont l'impression qu'ils vont mourir ou perdre le contrôle. Et entre ces attaques de panique, ils ne sont pas nécessairement anxieux. Par ailleurs, les autres troubles panique, l'agoraphobie, la phobie sociale, sont des troubles où l'anxiété va se manifester dans un certain nombre de situations. Par exemple, dans l'anxiété sociale, l'anxiété va se manifester lorsque les gens vont être en contact avec les autres, ou à l'idée d'être en contact avec les autres. Dans l'agoraphobie, l'anxiété va se manifester dans les situations qui angoissent les gens, comme les transports en commun, les ponts, les tunnels, le fait d'être enfermé, le fait d'être dans un cinéma, etc. Le trouble anxiété généralisée, lui, il n'a pas besoin de facteurs déclenchants. Il est anxieux tout le temps. C'est vraiment, dans le grand public, on appelle ça l'anxieux, quoi, le tempérament anxieux. Celui qu'on décrit l'anxieux, en général, c'est l'anxieux généralisé.
D'accord. Alors, dans votre bande dessinée, justement, vous abordez trois types d'anxiété avec trois scénarios. Hein. Il y a Ismaël, le petit anxieux, étudiant en philo, entre guillemets, le petit anxieux, étudiant en philo et insomniaque. Il y a Mona, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est une libraire qui est sujette à des crises de panique. Et puis, vous avez François qui, lui, est atteint d'un trouble anxieux généralisé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier ces trois cas-là ? C'était un peu pour montrer les variables, c'est ça ?
Oui, et puis plus, c'était difficile. On aurait pu mettre quelqu'un qui avait un TOC ou des choses comme ça, mais c'est les troubles anxieux les plus fréquents quand même qu'on a mis. En ce qui concerne Ismaël, on a voulu traiter un jeune étudiant anxieux pour montrer que l'anxiété, justement en post-Covid en particulier, a envahi beaucoup la jeune génération. Et qu'il y a des anxieux qui sont pas encore, je dirais, dans un trouble anxieux, mais qui, à mon avis, méritent d'être pris en charge dès ce stade-là. Enfin, les gens qui l'ont abédé, Ismaël, c'est important de comprendre qu'il faut qu'il commence peut-être à voir quelqu'un, parce qu'il est en train de rentrer dans des mécanismes anxieux qui vont se répéter, qui vont l'enfermer dans le trouble anxieux. C'est important d'être préventif, quand même.
Quels pourraient être un peu les symptômes pour celles et ceux qui nous entendent et qui se disent où mettre le curseur entre... c'est normal, c'est une période qui est complexe, c'est normal que je ressente de l'anxiété. Et à un moment donné où là, on a passé un cap de vigilance et c'est bien d'aller consulter. Quoi.
Le curseur, c'est l'anxiété va devenir anormale quand vous ne pouvez plus vivre ce que vous devez vivre normalement. Vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus sortir voir des gens, vous ne pouvez plus faire votre travail normalement parce que vous avez trop de vérifications, vous perdez des heures à vérifier. C'est le premier critère. C'est vraiment, on ne peut pas vivre les choses normalement. La deuxième chose, c'est que dans votre corps, vous êtes envahi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, par des signes physiques intenses. Vous avez des tas de troubles que les médecins ne comprennent pas, ou vous avez des bouffées d'attaques de panique. Le troisième critère qui montre que notre anxiété est en train de devenir pathologique, c'est ce qu'on appelle l'envahissement cognitif. C'est cette radio mentale permanente, ces anticipations négatives, ces ruminations négatives dont nous avons parlé tout à l'heure, qui vont devenir tellement permanentes qu'elles vont vous envahir toute la journée, elles vont vous empêcher de dormir, elles vont vous empêcher de faire ce que vous avez à faire.
Oui, vous parlez même de grands parasites qui collent à la peau à un moment donné. La métaphore est intéressante parce qu'on peut, pour s'en distancier aussi, le voir comme ça.
Exactement, d'ailleurs, c'est ce que je disais sur le traitement. L'idée, c'est pas d'enlever ce parasite ou ce cellophrène qui nous entoure et qui est collé à nous sans espace. L'idée, c'est de le décoller et de le regarder. D'ailleurs, en thérapie, je dis aux gens, écoutez, on est trois. Il y a vous, moi et votre anxiété. Et je pose un objet sur mon bureau en leur disant, voyez, ça, c'est votre anxiété. Et tous les deux, on va essayer de travailler dessus pour vous aider à faire avec. J'ai parfois une balle en mousse. Je leur dis, voilà, il y a des moments où vous allez la prendre, votre anxiété, prenez la balle en mousse. Parce que vous avez une échéance importante, vous avez un enfant qui a un problème de santé, vous avez un enjeu professionnel, il faut que vous soyez un peu anxieux. Et parfois, vous avez besoin de prendre des distances, vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez une grosse semaine. Donc, vous allez me rendre la balle en mousse, vous allez la poser dans un coin de votre maison, votre anxiété, en disant non, là, écoute, il y a rien de grave, il se passe rien de grave, je suis chez moi. Si je fais pas la cuisine, c'est pas grave. Si je réponds pas tout de suite à mon enfant, c'est pas très grave, on verra demain. Et c'est cette capacité à jongler avec notre anxiété qui va être une formidable ressource après pour éviter les deux grandes erreurs qui seraient de ne plus vouloir du tout d'anxiété ou alors de se laisser envahir par l'anxiété avec ce cellophrène ou ce parasite qui ne nous décollerait pas.
D'ailleurs, chose à savoir intéressante, vous prenez ce fameux cas de Mona et sa peur panique du métro, cette libraire, on en a parlé tout à l'heure, ces crises d'angoisse qui montent d'un cran jusqu'à finalement aller jusqu'à l'arrêt maladie. Et là, vous rappelez qu'une attaque de panique, elle dure 1h30, c'est ça ? Et donc ça, c'est intéressant d'avoir ces notions en tête.
C'est intéressant parce que ça vous évite d'aller à l'urgence pour rien. J'ai eu, quand j'habitais dans mon immeuble précédent, une de mes voisines, avec qui j'avais de bons rapports, qui m'a appelé, très gentiment, parce qu'elle ne me dérangeait jamais, mais elle était en pleine attaque de panique, son conjoint m'a appelé. Et j'étais déjà psychiatre, je faisais plus de médecine générale depuis un moment, j'avais pas de trousse d'urgence chez moi, donc je suis arrivé, je l'ai fait allonger sur son canapé, j'ai pris une voix douce comme ça, je lui ai parlé tranquillement et je l'ai fait respirer avec une respiration abdominale lente. D'ailleurs, l'exercice, on l'a mis dans la bande dessinée, il y a un flash code, et les lecteurs peuvent avoir ce genre d'exercice, ils m'auront directement chez eux en consultation. Et simplement, en la calmant, en la prenant à hypoventiler, ça a complètement fait passer son attaque de panique. Donc, au lieu d'aller à l'urgence, surtout n'hyperventilez pas si vous avez un début d'attaque de panique. Surtout, ne cherchez pas à ouvrir la fenêtre pour prendre une grande bouffée d'air. Au contraire, reposez-vous. Faites une respiration abdominale lente, comme je vous ai indiqué dans la bande dessinée, ou l'exercice de la bougie qui consiste à souffler tout doucement sur la flamme d'une bougie qui serait virtuellement devant nous, pour faire pencher la flamme à 45 degrés. C'est-à-dire qu'on souffle pas trop fort pour pas éteindre la flamme, mais assez fort pour la faire pencher de manière continue et lente, voyez. Et du coup, comme ça, ça va apprendre aux gens la respiration abdominale lente et superficielle qui, croyez-moi, est un outil formidable pour la gestion de stress et d'anxiété, très simple à apprendre.
Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des moyens que vous proposez pour décatastropher, comme vous dites, le mental, d'éteindre radio mentale. Et donc là, il y a d'autres, vous donnez d'autres astuces, comme par exemple, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami s'il était dans cette situation ? Ça revient aussi un peu à ce que vous expliquiez avec l'objet externe. Il y a un tiers qui est là, qu'est-ce que je lui dirais à ce moment-là pour le rassurer ? Mais la question que je me suis posée, c'est quand on est dans cet état-là, est-ce qu'on arrive à le faire ? Est-ce que la volonté peut prendre le pas pour réussir à faire ce type d'exercice ?
Alors, je vais répondre, mais juste pour dire que ces techniques sont pas de moi, je suis pas le docteur savant. La technique de décentration de la meilleure amie, c'est une technique cognitive très classique, décrite par les grands spécialistes depuis longtemps. Vous avez raison, il y a deux cas de figure. Si vous évaluez votre état anxieux sur le moment dont vous me parlez de 0 à 10, je dirais que si vous êtes à moins de 4, vous pouvez le gérer vous-même avec des techniques de respiration, etc. Par contre, si vous êtes entre 4 et 10, il faut attendre que ça passe. On peut pas gérer une anxiété ni avec des techniques soi-même, sans thérapeute, ni avec des techniques corporelles, ni avec des techniques cognitives, c'est les trop fortes. Donc, il faut bien que les auditeurs apprennent à évaluer l'anxiété. Il faut qu'ils sortent du tout ou rien. C'est pas « je suis anxieux » ou « je suis pas anxieux ». Prenez l'habitude de faire comme si vous aviez un petit thermomètre gradué en 10. Il faut dire aux gens ça. Et tous les jours, vous mettez une petite alarme sur votre téléphone. Toutes les 3 heures, vous surprenez, vous faites sonner le téléphone en disant « tiens, là, je me mettrai à combien sur 10 ?» Ben là, je suis à 3 sur 10. Hop. Et puis, 2 heures plus tard, ça sonne. Il se trouve que vous êtes juste avant une réunion professionnelle. « Tiens, là, je suis à 6. » Tiens, là, je suis à 9, là, je suis à 2. Et une fois qu'ils auront appris déjà à comprendre que l'anxiété, c'est pas 0 ou 10, ils verront que quand ils sont à 2, c'est plus facile de la contrôler que quand ils sont à 8. Et d'autre part, alors j'en profite, tiens, pour continuer la thérapie, hein, sur votre question, là.
Oui.
Ce qu'on va leur faire faire après, la première semaine, on leur fait simplement mesurer, pour qu'ils sortent de l'idée simplement de tout. Ça suffit, c'est pas la peine de leur en faire plus. Alors ils me disent, mais je sais pas quelle mettre note. Je leur dis, de toute façon, la note c'est subjectif, mettez-en une première et après vous mettrez les autres par rapport à celle que vous avez mise. Une fois que chacun est devenu capable d'évaluer son niveau d'anxiété, l'intensité, on va lui dire, vous allez continuer l'exercice en faisant sonner, par exemple, votre téléphone 2 fois par jour. Quand il va sonner, vous allez noter sur une petite note de votre smartphone, sur une petite page comme vous voulez, votre intensité, mais en plus, vous allez noter ce que vous étiez en train de faire. Vous allez noter vos émotions, c'est-à-dire ce que vous ressentez exactement dans votre corps, pour vous rendre compte que quand vous êtes à 2, vous ne ressentez pas grand-chose. Quand vous êtes à 4, vous avez votre alarme corporelle je vais y revenir, c'est un corporel qui démarre. Et quand vous êtes à 8, vous êtes bourré de symptômes avec des tachycardies, vous respirez plus, etc. L'alarme corporelle, au passage, Anne, c'est très important de savoir ça. Tiens, j'avais pas prévu de vous en parler de ça non plus, mais c'est vraiment, je vous dis les choses que je dis le plus souvent depuis 40 ans, vous voyez. C'est que chacun d'entre nous, on a des alarmes corporelles. Les anxieux, il y en a qui vont vous dire, moi, j'ai le plexus qui me sert. Vous savez, cette petite région là, en bas du sternum, en haut de l'estomac, ça me sert là. Il y en a qui vont vous dire, moi, c'est la gorge qui me sert. Il y en a qui vont vous dire, moi, quand je suis anxieux, j'ai les muscles tendus. Il y en a qui vont vous dire, moi, quand je suis anxieux, je tremble. Il y en a qui vont vous dire, ah, moi, c'est surtout mon cœur qui tape. Ce que je peux dire aux auditeurs, c'est que chacun d'entre vous a un symptôme d'alarme qui est toujours le même. Si vous regardez bien, en montant de 0 à 10, dans les petits états anxieux à 2, 3, là, à 4, vous allez voir que vous commencez toujours par les mêmes régions. Donc ça, c'est très intéressant, parce que vous allez avoir votre petite sentinelle personnelle qui va vous permettre de vous dire « Ah, t'as ta petite douleur là dans ton creux épigastrique, là dans ton creux de l'estomac, attention, t'es peut-être en train de démarrer une anxiété. » Et là, vous allez pouvoir vous dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu as comme pensée ? Est-ce que tu as des pensées négatives ? Comment tu peux gérer avec ton corps, avec les exercices de la BD, on a dit tout à l'heure, respirer. Comment tu peux gérer tes pensées négatives si tu as des pensées négatives? Attention, là, tu es en train de trop négativer la réunion. C'est-à-dire que du coup, vous allez devenir vous-même votre propre thérapeute de votre anxiété. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. D'abord, de toute façon, on n'a plus le temps de voir tout le monde, on est envahi, les psys. Donc, il faut vraiment dire au grand public qu'il faut qu'ils se prennent en charge. Si l'anxiété, nous, bien sûr qu'on va traiter les cas les plus graves et les plus intenses, mais l'anxiété touche tout le monde, on l'a dit. À titre préventif, il est fondamental, ce genre de podcast, ce genre de BD, que les gens se cultivent en matière de psychologie, comprennent comment marche l'anxiété et aient, comme je viens d'en donner, des petits outils simples, mais individualisés, qui vont leur permettre, c'est leur petite trousse d'urgence, c'est leur gymnastique, on fait bien de la gymnastique corporelle, on sait bien quel mouvement il faut qu'on fasse, on sait bien quel sport est bon pour nous. Eh ben, apprenez une gymnastique mentale, un sport mental qui vous convient, et ça sera pas le même pour tout le monde.
Ceci est un message sponsorisé par BetterHelp. Alors les amis, une toute petite pause au milieu de cet épisode, car vous le savez peut-être, j'ai beaucoup exploré les thérapies. Et dans mes ouvrages, je partage à quel point elles peuvent nous transformer, nous faire grandir, nous aider à déployer nos ailes. Pour que la thérapie soit accessible à tous, il existe BetterHelp, sponsor de cet épisode. BetterHelp, c'est une plateforme qui vous met en relation avec des thérapeutes expérimentés, enregistrés auprès de l'ARS et appliquant un code de déontologie strict. En remplissant un questionnaire détaillé, vous serez orienté vers le professionnel qui vous correspond et vous pourrez entamer des séances adaptées à vos besoins. La santé mentale est une cause qui me tient particulièrement à cœur et je ne suis pas la seule à le penser. D'après un sondage YouGov de 2024, 7 Français sur 10 considèrent la santé mentale aussi importante que la santé physique. C'est d'ailleurs la grande cause nationale de cette année 2025. Alors, afin de prendre soin de vous, rendez-vous sur betterhelp.com et bénéficiez en tant qu'auditeur de Métamorphose de 10% de réduction sur votre premier mois avec le code Métamorphose. Et maintenant, place à la suite de cet épisode. Oui, vous le rappelez bien d'ailleurs dans la BD, hein, vous dites la thérapie c'est comme le sport, c'est un entraînement mental, il faut faire les exercices quotidiennement. Alors voilà, un peu de régularité quand même là-dedans.
Informez-vous et cultivez-vous, écoutez de la bonne psychologie, lisez de la bonne psychologie, discutez avec des gens quand vous les croisez qui connaissent ça, n'hésitez pas à poser des questions, allez sur des forums, mais avec des spécialistes, etc. Il ne faut pas dépendre d'un médecin ou d'un psychologue pour résoudre ses problèmes mentaux. Je dis ça parce que, vous savez, moi je suis médecin, donc la différence c'est que quand je discute avec mes collègues somaticiens, eux pour eux ils n'ont pas ce problème. Si vous expliquez ce que c'est qu'un cœur aux gens, qu'un infarctus avec un petit schéma, on va leur montrer, vous leur montrez une radio, vous leur dites « voyez, le cœur il est là ». Comment vous allez dire avec une radio « l'anxiété elle est là » ou « la dépression elle est là » ? C'est très mystique pour les gens, la psychiatrie. Ils n'arrivent pas à se représenter. Donc, c'est important de leur donner des explications sur les mécanismes, de leur parler des neurones, il faut qu'on en parle, parce que les neurones à la sérotonine, ils fonctionnent pas bien dans l'anxiété. De leur dire où sont ces neurones, de leur dire qu'on a des produits qui agissent dessus, ces produits que j'appelais inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, j'en parle maintenant, puisque j'ai l'occasion d'en parler, qui vont traiter la cause biologique de l'anxiété. Alors que les anxiolytiques, qui est un manque de sérotonine, alors que les anxiolytiques, eux, dont je parlais tout à l'heure, que je n'indique pas, ou en tout cas le moins possible, ils n'agissent pas sur la sérotonine. Donc non seulement vous allez vous créer une accoutumance, mais en plus vous n'allez pas traiter la cause de l'anxiété biologique. C'est d'ailleurs la même chose pour l'alcool, le hashish ou la drogue. C'est sûr que, je vais vous dire, si vous êtes anxieux, vous prenez 3 whisky, vous le serez moins, il n'y a pas de souci, hein. De 3 chichons, un peu de cocaïne, ça ira mieux. Hein. Sauf que ça ne va pas traiter la cause biologique.
On voit beaucoup d'addictions, effectivement, chez les anxieux. Ouais.
Ah oui.
Alors, donc, pas les anxiolytiques. Vous pouvez redonner le nom de la molécule et peut-être donner des noms de médicaments qu'on
retrouve. Alors, il y en a beaucoup des anxiolytiques. Les plus couramment donnés actuellement, c'est par exemple l'alprazolam, qui s'appelle aussi le Xanax, parce qu'à chaque fois, vous avez un nom générique et un nom de médicament.
Ouais,
vous avez le bromazépam. Alors, en gros, les anxiolytiques, le nom générique, il se termine par AM, O-M. Bromazépam, métazépam, tétrazépam, etc. Et les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, c'est des produits, il y en a beaucoup moins, qui agissent sur la sérotonine, comme par exemple le Zoloft ou Sertraline, c'est la même chose, l'escitalopran ou le citalopran, etc. Vous avez 5-6 produits qui agissent bien dans l'anxiété, qui sont reconnus d'ailleurs avec des autorisations de mise sur le marché officielles. Alors attention, il ne s'agit pas que les gens en écoutant le podcast sautent sur une boîte de Sertraline. La prescription, c'est individuel, c'est une affaire de spécialiste. Il n'y a jamais de cas identique. Moi, il y a des gens qui veulent un médicament. À la fin de la consultation, je leur dis non, vous ne nécessitez pas de médicament. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce que comme je suis connu comme spécialiste de thérapie comportementale et cognitive, je veux une thérapie, je veux pas de médicament. Et les pauvres, à la fin de la consultation, je leur dis écoutez, je suis désolé, mais compte tenu de votre état, même moi, je vais vous dire que la thérapie comportementale et cognitive ne suffira pas. Il faut commencer par un médicament. Troisième série de personnes, je vais leur dire il faut les deux. Bon. En tout cas, ce que je peux vous dire sur mon expérience, puisqu'on parle de ça, j'en profite pour passer un ou deux messages essentiels, c'est que la prescription de médicamenteuse ne doit pas être ni faite par la voisine, ni par la concierge, ni par le boulanger, mais par un médecin qui connaît ce genre de problème et qui s'y intéresse. Il y a des médecins traitants qui font très bien. Parlez-en déjà avec votre médecin traitant. Si lui souhaite vous montrer un spécialiste, à lui de vous dire à ce moment-là de consulter un psy. Et en général, vous savez, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, quand on en a besoin, parce que les gens sont trop en souffrance, quand ils font... Comment voulez-vous qu'ils fassent une thérapie quand ils font 3 attaques de panique par semaine ? On peut pas. C'est Donc on les calme avec les médicaments, ce qui va nous permettre de faire une meilleure thérapie, plus rapide et plus efficace. Et à la fin de la thérapie, dans la majorité des cas, quand la thérapie était bien faite, que le sujet est capable lui-même de gérer son anxiété... Eh ben, on peut se passer des médicaments. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, on les arrête. C'est pas définitif. Il y a quelques cas rares, malheureusement, quand le trouble est plus d'origine génétique et biologique, parfois on peut pas l'arrêter. Mais il faut pas que les gens croient qu'à partir du moment où on va leur prescrire un médicament, c'est à vie. Certainement pas. D'autre part, j'en profite pour dire que ces inhibiteurs de recapture de la sérotonine, contrairement à une idée reçue et contrairement aux benzodiazépines, ne donnent pas d'accoutumance. Pas de dépendance à long terme, pas d'Alzheimer, pas de troubles de mémoire. Voilà, il faut bien faire la différence parce que les gens mélangent tout en matière de psychotropes. Un neuroleptique, c'est pas un thymorégulateur, c'est pas un anxiolytique, c'est pas un sérotoninergique. Chaque cas est différent, j'y insiste, et que ces médicaments peuvent être d'une grande utilité, mais il est rare dans un trouble anxieux sévère qu'ils soient suffisants. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer aux gens qui sont en grande souffrance qu'on va commencer un traitement médicamenteux pour les aider vite à retrouver un certain confort. Mais je serai le premier à leur dire aussi, attention, compte tenu de l'anxiété, la sévérité du trouble, il faut faire une thérapie en plus, donc très souvent on va faire les deux, parce que c'est ça qui vous donnera une autonomie par rapport à votre trouble anxieux.
Oui, très bien. Mais c'est vrai que quand vous disiez ça, je repensais à l'émission que j'avais faite avec le docteur, le professeur Nader Perrou, hein, qui disait la même chose, c'est-à-dire que sur le TDAH, quand on est sur des spectres un peu plus sévères, c'est vrai qu'on peut faire une thérapie que si on est sous médicaments, sinon c'est aussi plus compliqué hein, pour intégrer les choses. Ce sera plus difficile, donc vous rejoignez à ce niveau-là également. Parlons justement des TCC, des thérapies cognito-comportementales, puisque vous êtes un spécialiste, vous avez présidé, vous le disiez tout à l'heure, hein, je crois l'association européenne, c'est ça ?
L'association francophone de thérapie cognitive et comportementale.
Ah, francophone,
et surtout,
francophone,
je ne sais pas si vous le savez, que les thérapies comportementales et cognitives sont arrivées à Lyon. Le docteur Jean Cotreau, qui fait la préface de la BD d'ailleurs, les a amenées à la fin des années 70-80. C'est arrivé aussi par Lille, par Paris. Enfin voilà, c'est maintenant un mouvement très très répandu. À l'association française, par exemple, on a près de 2000 membres. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, hein, c'était très peu connu, mais elles méritent encore d'être encore plus diffusées parce que elles ont énormément d'études scientifiques derrière elles et ce sont des thérapies dont les résultats sont contrôlés. Ça ne veut pas dire que ça va marcher chez tout le monde, il faut que ça convienne, il faut que ça plaise, mais dans un trouble anxieux sévère, c'est la première thérapie qu'on indique en priorité.
Alors, comment ça va fonctionner, ces thérapies? Par exemple, est-ce qu'on pourrait donner quelques cas concrets de résolution de forme d'anxiété grâce au TCC ?
Oui, au passage, il me vient une idée, je me permets, hein, c'est en dehors de votre question, de préciser que les thérapeutes comportementalistes peuvent être médecins psychiatres comme moi, mais peuvent être aussi psychologues cliniciens. Mmh. Toujours dans la précision, je précise que tous les psychiatres ne sont pas thérapeutes cognitivo-comportementalistes et tous les psychologues non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que la thérapie comportementale et cognitive, c'est un diplôme en 3 ans, qui est enseigné soit dans l'université, soit par l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Et les gens qui s'inscrivent à ce diplôme sont déjà psychologues cliniciens ou déjà médecins. Mmh. Ça veut dire qu'il faudra chercher un intervenant qui est formé à ces thérapies avec ce diplôme en 3 ans, si vous voulez avoir quelqu'un qui a l'habitude de traiter ces troubles anxieux et la formation.
Bah, c'est parfait, merci pour la précision.
Oui, c'est important.
Très bien. Et vous avez un site peut-être où on peut trouver des gens?
Alors,
qui
sont
formés?
Alors, il y a des sites. Par exemple, vous avez le site de l'AFTCC, donc l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, qui comporte une liste des membres avec une carte nationale. Vous cliquez sur votre région, vous avez des noms. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas là-dessus. Moi, ce que je fais avec mes patients, je tourne l'écran de l'ordinateur, je leur dis, bon, on va regarder sur l'AFTCC. S'il n'y a pas, on va regarder sur Google. On va taper psychologue ou psychothérapeute TCC dans votre région. Et je vais un peu plus loin quand on a des noms, parce qu'il y a des gens qui font un peu des abus, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils font de l'approche TCC, mais ils n'ont pas fait la formation en 3 ans. Donc, je leur dis, vous allez sur le nom, vous regardez s'ils ont un site internet, ils en ont presque tous, et quand ils ont un site internet, vous regardez leur CV et leur formation. Parce que les gens qui ont fait le diplôme en 3 ans, croyez-moi, ils le mettent. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens qui n'aient pas le diplôme qui ne sauront pas prendre en charge les patients, hein. Là, simplement,
c'est plus aléatoire sur la.
Voilà, ça sera plus aléatoire sur la formation. Ouais. Voilà, si le trouble est sévère, il vaut mieux quelqu'un qui a de l'expérience et la formation.
Donc ça, c'est super. Merci d'avoir vraiment donné ces ressources. On les redonnera en lien sous l'émission, comme ça vous pourrez y accéder facilement pour nos auditeurs. Alors, par exemple, j'ai envie de le faire soit en complément de médicaments, soit seul, à quoi va ressembler une prise en charge, par exemple en TCC? Combien de temps ça peut durer? Quel type d'exercice ou de thérapie? Est-ce que c'est que verbal? Est-ce que c'est physique? Voilà, pour nous donner un peu un contexte.
Alors, je vais vous donner un contexte. Je vais là encore essayer d'être le plus précis possible. D'abord, dans la durée, vous avez 3 phases dans une thérapie. Vous avez une première phase, et je l'explique longuement dans la BD, d'ailleurs c'est très important, qui est la phase d'analyse. C'est-à-dire que ça va durer entre 1 et 5 consultations en moyenne. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Je ne vais pas commencer à traiter le patient. Je vais parler avec lui pour comprendre ce qui se passe, depuis quand, recherche des antécédents, enfin c'est un interrogatoire médical classique. On va chercher les comportements, on va chercher à faire les diagnostics. Souvent, vous savez, Anne, en psychiatrie, on a plusieurs diagnostics. C'est-à-dire que même si le patient arrive en me disant « moi j'ai tel trouble, j'ai un TOC », ça ne veut pas dire qu'il n'est pas autre chose. Donc ces entretiens préalables sont là pour faire un diagnostic, et ce qu'on appelle, dans notre jargon de TCCiste, une analyse fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais analyser, comme on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui se passe dans des situations de vie données. Donc, il va me parler de son travail. Quand tu dois prendre la parole à une réunion, je vais lire à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous anticipez? Est-ce que vous avez des pensées négatives? Quels sont les signes corporels? Comment vous les gérez? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour gérer tout ça? Vous voyez? Ça, c'est l'analyse fonctionnelle synchronique, c'est-à-dire dans l'ici et le maintenant. Oui. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, monsieur et madame, dans votre vie, sur le dernier mois? Racontez-moi à quel moment l'anxiété vous a gêné, comment elle s'est manifestée, quelles sont les ressources que vous avez utilisées. Ensuite, toujours dans ces 5 premières consultations, ça peut être que 3, hein, ça dépend des gens, on va chercher les antécédents. Je parlais tout à l'heure de traumatisme, comment ça s'est passé dans votre famille, comment ça s'est passé à l'école, est-ce que vous aviez de l'anxiété enfant. Toujours dans ces premières consultations, on va chercher ce qu'on appelle les comorbidités. Est-ce que cette personne anxieuse boit trop? Est-ce qu'elle prend des médicaments? Est-ce qu'elle a des addictions? Est-ce qu'elle a fait de la dépression? C'est très fréquent, l'association avec la dépression. Parce que, évidemment, je vais leur expliquer, vous savez, moi, vous me demandez de l'EMDR, vous me demandez de la TCC, vous me demandez de l'EFT, je ne sais quoi. Je ne vais pas vous dire ce qui est bon pour vous tant que je n'aurai pas fini ma phase d'analyse pour faire ce qu'on appelle une conceptualisation partagée avec le patient. Ça veut dire, en langage clair, que je vais lui dire, voilà ce que j'ai compris de vous. Et je vais lui faire un résumé en quelques phrases. Et je vais lui dire, est-ce que c'est ça? Et si la personne me dit, oui, c'est exactement ça, alors on est d'accord sur la conceptualisation. Si elle me dit, non, pas tout à fait, on continue à parler jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette première phase, le soignant et le patient sont d'accord, ils ont compris le problème. Donc, en fonction de cette compréhension, je vais leur dire, bah, pour vous, voilà, par exemple, je vous prends un exemple, n'importe lequel, vous êtes jeune, l'anxiété n'est là depuis quelques années, il n'y a pas de conséquences dépressives, il n'y a pas d'addiction, vous avez un trouble anxieux généralisé simple, je vous conseille une thérapie sans médicaments. Par exemple. La deuxième phase, donc, on va faire une thérapie de la trouble anxiété généralisée, on va commencer par vous apprendre, comme on le montre dans la BD d'ailleurs, à gérer les manifestations corporelles de l'angoisse, on a parlé tout à l'heure, hypoventilation, etc. On va vous apprendre à gérer vos pensées négatives, votre radio mentale, et ça va nous prendre 15 ou 20 séances, vous viendrez me voir 2 fois par mois, et on fera des exercices ensemble. Je vous donnerai des choses à faire, par exemple, la première séance, si je vous apprends à respirer avec le ventre, je vais vous demander de faire ça tous les jours chez vous pendant 15 jours, de me rapporter le résultat de vos exercices sur une petite fiche, en me disant à chaque fois combien cette séance de relaxation vous a permis de diminuer votre anxiété. Vous êtes passé de 6 à 2, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est du très, très bien, concret. Ouais. Très, très concret. Mmh. Après, plus loin, on va faire un exercice sur les pensées négatives. Là, pareil, ils vont écrire leurs pensées négatives, on leur apprend à gérer. C'est un aller-retour. C'est pas uniquement « je viens parler à un psy ». C'est « on est là pour vous aider », on a dit « on est 3 », à gérer votre anxiété. Je vous donne des choses, je vous donne des pistes, vous les essayez, vous revenez me dire si ça marche ou pas. Hmm. Si ça marche pas, on recommence, on cherche autre chose. Ça, c'est la deuxième phase qu'on appelle la phase active de la thérapie. Ça va durer quelques dizaines de séances selon les cas. 10 dans les meilleurs des cas, parfois 20, parfois 30. Au cours de cette phase active, dans un certain nombre de cas, nous allons trouver qui est derrière cette anxiété, il y avait des choses plus graves et plus lourdes, par exemple dans le passé. Il y a un certain nombre de gens, pas tous, loin s'en faut, qui ont ce qu'on appelle les troubles de personnalité plus sévères. À ce moment-là, on va dire, attendez, vous êtes venu pour l'anxiété. Si vous voulez qu'on approche ce trouble de personnalité sévère, c'est peut-être important parce qu'il risque, si on ne le traite pas, d'entraîner des rechutes à plus ou moins long terme de votre anxiété chez vous. Mais là, on passe sur autre chose, par exemple une thérapie des schémas cognitifs, et là, on part sur 30 séances. C'est assez important de le dire parce que ça explique pourquoi certains patients rechutent. C'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans la thérapie. Mais on ne va pas la faire à tout le monde non plus, la thérapie longue. Donc, on attend de voir comment ça se passe pendant cette phase active. Et quand on voit qu'il y a quelque chose derrière, on va le proposer aux gens. Et quand on a fini la phase active, on a ce qu'on appelle une post-cure. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, on lâche pas le patient. Il venait tous les 15 jours, puis 20 séances. On va lui dire, bah, écoutez, ça va. Il vient nous dire, ça va beaucoup mieux. On va dire, bah, écoutez, on va se revoir dans 3 mois, dans 6 mois et dans 1 an. Pour vérifier comment vous êtes devenu capable d'appliquer les techniques de gestion de l'anxiété. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a du retour ou pas? Voilà un peu comment les choses se passent concrètement, Anne.
Est-ce qu'on peut citer des... Vous avez cité le MDR. Merci d'abord pour ce déroulé. Hein. C'est vrai qu'on voit qu'on peut partir dans un parcours quand même assez long. avec des exercices à faire. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, sans pratique, finalement, on n'y arrivera pas. Le cerveau a besoin de recréer aussi ses connexions, de s'entraîner. Et puis, comme vous l'avez très bien dit aussi, de laisser vivre notre angoisse au lieu de l'éviter à tout prix. Hein. C'est-à-dire qu'on va parfois au-devant de la peur. Donc, j'imagine qu'il y a des exercices aussi qui peuvent aller dans ce sens-là.
Oui, c'est tout le mouvement qu'on appelle l'acte, l'acceptation, l'acceptance and commitment therapy. Donc, accepter son angoisse, qui est d'ailleurs un des mouvements récents de la TCC.
Tout à fait, qui est très en vogue aux États-Unis. Pourtant, elle n'est pas récente, mais elle marche très bien.
Stephen Hayes, ce n'est pas récent. Moi, j'ai été formé il y a une petite vingtaine d'années à ça. Par un de ses collaborateurs qui est venu en France, justement avec l'association dont vous parliez tout à l'heure. Mais l'acte, à mon avis, a l'intérêt de donner beaucoup de sens à la thérapie et surtout à l'intérêt d'aider les gens à arrêter de lutter contre leurs symptômes. Qu'ils ne soient pas en lutte, mais ça, je l'ai déjà un peu dit, j'ai expliqué qu'il ne fallait pas lutter contre des symptômes, vouloir les abrutir à tout prix. Et donc, c'est très intéressant pour ça, l'acte. Et puis, l'autre intérêt, donc on travaille sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous. L'autre intérêt, c'est qu'il y a aussi, mais ça, on l'avait déjà dans la TCC, un véritable engagement dans l'action. Mais c'est l'acte qui dit vivre avec anxiété plutôt que de combattre son anxiété, quoi. Pour faire comprendre aux gens qu'on n'enlèvera peut-être pas toute l'anxiété. En revanche, je dois vous dire que la seule technique ACT, à mon avis, dans les troubles anxieux sévères, quand les gens ont des attaques de panique sévères, enfin sont vraiment envahis par les symptômes de l'angoisse, que ça soit au niveau cognitif, ça suffit pas toujours. Mais pour beaucoup de gens qui sont dans des états pas très sévères, c'est très intéressant. Ça fait partie des TCC. Le MDR, puisque vous me posez la question.
Oui.
C'est une thérapie basée sur les mouvements oculaires rapides qui a donc été importée en France, enfin qui a été décrite par Madame Shapiro aux États-Unis, apportée en France par David Servan-Schreiber, que j'ai eu le grand plaisir de recevoir à Lyon 1 quand il est revenu en France, puisque c'est chez nous qu'il est venu enseigner, avant sa disparition malheureusement. Son livre d'ailleurs, Vivre, est très intéressant, je le conseille à beaucoup de gens, il y a les techniques d'alarme dont je parlais tout à l'heure. Le MDR est vraiment une technique qui doit être pratiquée dans une seule indication. Enfin, il y a une seule indication dans laquelle elle a une efficacité démontrée scientifiquement, c'est le stress post-traumatique. Là encore, c'est une technique, c'est pas une école de thérapie. Hein. Nous, on l'a intégrée dans la formation des TCC. Donc, tous nos TCCistes à Lyon 1 et dans d'autres villes, à Paris aussi, sont formés à l'EMDR. Malheureusement, on voit des gens, parce que vous savez, des psys, parfois, ils sont convaincus par une technique, donc ils la mettent un petit peu à toutes les sauces, et qui font de l'EMDR sans avoir pris le temps de faire la conceptualisation de cas. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose là-dessus, important, et qui applique l'EMDR à des tas de choses. Et là, les résultats sont évidemment moins constants. Ce que je vais vous dire là-dessus, qui est important, mais pas poser la question, mais je vous dis quand même, parce que je veux que les auditeurs le sachent, c'est que la thérapie, c'est pas un supermarché de la thérapie où chacun va acheter sa thérapie qui lui convient. Je vous dis ça parce que je vois beaucoup de patients débarquer en me disant « moi je veux de l'EMDR, moi je veux de l'EFT, on m'a dit que l'hypnose ça marchait bien, on m'a dit que… » Et à chaque fois ma réponse est la même. Est-ce que vous iriez dire à votre cancérologue quel anticancéreux il faut qu'il vous donne ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la thérapie, ce n'est pas une technique qui marche et pas les autres, une technique qui marcherait pour tout le monde. Je reviens à mon idée de tout à l'heure. Le bon thérapeute, il va prendre le temps. D'abord, il va pas pratiquer qu'une technique. Moi, j'en ai fait de l'EMDR, hein, j'en fais pas tout le temps, ça dépend des cas. Il va analyser votre problème sur plusieurs séances. Il va vous allez vous sentir compris et aidé. Vous allez dire enfin quelqu'un qui comprend mon problème. Et c'est seulement ensuite qu'il vous proposera une technique. Et le vrai bon thérapeute, il ira même, ce que je fais souvent, jusqu'à vous proposer une technique chez un confrère parce qu'il la pratique pas lui-même. À différencier de, on a beaucoup un peu de faux thérapeutes qui se développent en ce moment, de gens qui se sont formés rapidement à une technique, parce que le MDR, vous pouvez soit être formé à l'MDR après avoir fait 3 ans de TCC, soit vous pouvez vous former en quelques semaines sans avoir de formation psychothérapique autre. Donc, c'est important ça, parce que, évidemment, les gens qui ont cette petite formation, ils auront tendance, ils sont souvent convaincus, ils veulent bien faire, ils sont convaincus par la technique, mais ils auront tendance à la mettre à toutes les sauces, et après, parfois, malheureusement, nous, on récupère les patients pas toujours en très bon état, quoi.
Non, mais ça, merci de l'avoir précisé. De la même manière que le MDR, on sait aujourd'hui qu'on a de bons résultats quand même en général sur le stress post-traumatique. Est-ce que sur certains types de troubles, On sait que d'autres méthodes, par exemple la mindfulness, la méditation de pleine conscience ou l'EFT, par exemple, que vous avez signalé, fonctionnent plutôt pour d'autres types de problématiques au sein des troubles anxieux.
Alors l'EFT, je ne m'y suis pas intéressé tout simplement parce que je n'ai pas vu assez de travaux scientifiques. Moi, si vous voulez, il y a 350 méthodes de thérapie. Et il y a trois écoles de thérapie. Trois écoles de thérapie, c'est la psychanalyse, les thérapies systémiques et les TCC. Elles ont toutes fait des études, plus ou moins, c'est les TCC qui en fait le plus. Les 350 écoles de thérapie, elles n'ont pas toutes fait des études. Donc moi, à partir du moment où une technique n'a pas prouvé son efficacité, je ne m'y intéresse pas, pour être franc. J'en ai déjà beaucoup auxquelles je m'intéresse. Le mindfulness, c'est différent. Le mindfulness, là encore, c'est un peu comme ce que je disais sur l'acte. Moi, pour moi, elle est intégrée dans les TCC. Le mindfulness, c'est une technique de gestion des émotions et aussi, d'une certaine manière, de gestion des pensées, puisque vous savez, on dit « laissez passer votre pensée comme un nuage dans le ciel qui passera comme l'orage passe et après vous avez le beau temps qui revient », donc toutes ces techniques un peu d'acceptation. Le mindfulness, c'est une méthode en elle-même qu'on va utiliser en TCC. Mais là, c'est pareil, que le mindfulness tout seul va aider, c'est pas une technique curative, il faut faire la différence entre ce qui est de l'ordre de prendre soin de soi, comme pour votre corps, vous mangez bien, vous allez faire de la diététique, vous n'allez pas manger n'importe quoi, vous allez faire du sport. Et ben moi, je conseillerais à tout le monde de faire du mindfulness ou de la relaxation ou du yoga, en tout cas au moins une approche émotionnelle, ça c'est sûr. Et puis, vous avez des traitements curatifs. Je parlais des anticancéreux, des antibiotiques, ils ont des traitements curatifs. Les traitements curatifs, ce sont les techniques comportementales et cognitives. On a l'ambition de guérir, c'est carrément autre chose. Mais par contre, je pense qu'il faut que tout à chacun ait des méthodes de gestion de son mental, de gestion de son corps, comme il a appris à bien manger, à bien se comporter physiquement, il faut bien se comporter mentalement. Et là, on trouve des techniques comme le mindfulness qui sont très intéressantes pour ceux à qui ça convient. Moi, j'ai deux types d'anxieux. J'en ai qui sont très aidés par le mindfulness et d'autres, ça les énerve parce qu'ils n'arrivent pas à rester concentrés, à laisser passer la pensée. Donc, on n'insiste pas. Et moi, je dis aux gens, écoutez, si le mindfulness ne vous convient pas, essayez autre chose. Essayez, par exemple, la technique de relaxation qu'on a mise sur la BD ou d'autres techniques de relaxation. Enfin, chacun va trouver son truc. Ce qui compte, c'est que vous soyez autonome par rapport à votre corps et capable de diminuer un peu vos symptômes anxieux avec votre méthode à vous.
À part justement la mindfulness là, dont on vient de parler, sur la régulation émotionnelle, est-ce que vous avez vu des choses qui fonctionnaient particulièrement bien sur le fait de pouvoir faire redescendre comme ça cette émotion quand je vois qu'elle arrive? Par exemple, avec le professeur Perrou, on parlait pour les TDAH du neurofeedback qui, pour certains sujets, semblerait avoir... parce qu'on perçoit... Alors, ce n'est pas forcément une technique de régulation émotionnelle, mais ça permet quand même de repérer le moment et ensuite peut-être d'aller faire quelque chose.
Tout est bon. Ça, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale dont je parlais, les techniques de relaxation, tout est bon à partir du moment où le patient est à l'aise avec sa technique de régulation émotionnelle. Et à partir du moment où l'objectif n'est pas encore une fois d'enlever toute émotion, mais de laisser vivre les émotions et de n'empêcher simplement d'arriver que l'excès d'émotion qui va vraiment nous pourrir la vie.
Oui, on pense à la méthode Tipeee, par exemple, qui laisse évacuer l'émotion.
Oui, voilà. Alors, il y a une méthode dont on ne parle pas beaucoup et que moi, j'ai utilisée toute ma carrière pour réguler les émotions, c'est la thérapie cognitive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien qu'on comprenne une chose. C'est que si on veut résoudre un trouble anxieux sévère, de manière définitive, il va falloir aller résoudre la cause, le moteur de l'anxiété. Le moteur de l'anxiété, il se trouve dans des schémas cognitifs inconscients qui sont là depuis qu'on est petit. Les anxieux, ils ont des schémas de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils se sentent particulièrement vulnérables. Ils ont, c'est-à-dire que quelque chose va pouvoir les atteindre, j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'anxiété généralisée, plus que d'autres, avec un système d'alarme déréglé. Ils ont des schémas de danger. C'est-à-dire que pour certains, le métro est devenu dangereux, alors que pour les autres, il ne l'est pas. Pour certains, la prise de parole en public est devenue dangereuse, alors qu'elle ne l'est pas. Pour les gens qui souffrent d'anxiété sociale, ils ont des schémas cognitifs d'assujettissement, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se soumettre à la volonté des autres. Ils ont aussi des schémas cognitifs d'exclusion. Si vous avez rencontré des gens qui souffrent d'anxiété sociale, ils ont toujours peur d'être exclus dans les groupes, c'est pour ça qu'ils ne vont pas prendre la parole, ils ne vont pas donner un avis contraire au groupe, etc. Si vous voulez vraiment résoudre le problème à fond chez un patient, il faut aller travailler sur ces schémas, et ça, c'est le but de la thérapie cognitive. Et quand vous avez travaillé sur ces schémas, là, vous avez résolu quelque chose de définitif. Alors que les autres techniques dont on parlait tout à l'heure, par exemple les techniques de gestion des émotions, corporelles, ce sont des techniques symptomatiques qui vont vous gérer les émotions sur le moment, mais l'émotion, elle reviendra après. Vous n'aurez pas résolu ce qui cause l'anxiété.
Comment elle fonctionne, la thérapie cognitive, pour simplement un peu la décrire?
Alors, la thérapie des schémas, donc, en gros, on part de notre fameuse... On parlait tout à l'heure des ruminations et des anticipations. La thérapie cognitive, ça a été découvert dans les années 70 par le professeur Beck, qui vient de décéder il n'y a pas très longtemps, Philadelphie, qui était psychanalyste et qui avait un patient sur son divan, qui tapait des doigts sur le divan. Beck, il était un peu impatient, il en avait marre de rester sans rien dire pendant une heure. Il a dit, tiens, je vais demander à mon patient ce qui lui arrive.
Et
c'était un génie, hein, mais bon, je vais demander à mon patient ce qui lui arrive. Et le gars, il lui a dit, pourquoi vous tapez sur mon divan comme ça? Il va dire, je suis en colère contre ma femme, on s'est engueulé. Enfin, je sais plus si c'est l'exemple de la femme, mais en tout cas, le gars lui a dit qu'il avait une émotion de colère. Et en fait, cette simple question, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête, à quoi vous êtes en train de penser maintenant? Ça a amené Beck à décrire ce qu'il a appelé la cognition. La cognition, par définition, c'est la pensée actuelle. Pour expliquer sa théorie, Beck a pris la référence de l'informatique. Donc, cette pensée actuelle qu'on a dans notre tête, la pensée que j'ai, qu'a se passé au moment où il tape sur le divan, la pensée que j'ai au moment où on m'annonce que mon enfant a été puni à l'école, où on m'annonce que je dois prendre la parole demain au travail, cette cognition, elle est actuelle, elle est dans le ciel maintenant, elle est dans le conscient. Au niveau de l'informatique, c'est ce que vous avez sur votre écran, ce que vous imprimez sur votre imprimante. Il a poursuivi ses travaux, Beck, en particulier dans la dépression. Il s'est aperçu que ce qui rendait les gens déprimés, ces gens qui avaient justement des cognitions négatives, « je ne vaux rien, mon avenir est foutu », c'est parce qu'ils avaient ce qu'on appelle des distorsions cognitives, grand mot pour dire « filtre de pensée », ou encore, pour revenir à ma référence informatique, plutôt à celle de Beck, les logiciels sur votre ordinateur, ce qui met quelque chose sur votre écran, c'est soit le Word, soit l'Excel, soit le Paint, mais ce n'est pas la même chose. Le Word va vous mettre du texte, l'Excel va vous mettre des tableaux, le Paint va vous mettre des dessins. Donc, on a tous dans notre tête, et là, c'est pas conscient déjà, c'est dans le préconscient, ce qu'on appelle des distorsions cognitives, qu'on aura tendance, par exemple, à généraliser. Par exemple, j'ai beaucoup d'anxieux qui manquent de confiance en eux. Lorsqu'ils ont un échec, un véritable échec, qu'ils ont échoué quelque chose, ils vont pas se contenter de dire « j'ai été nul dans cette tâche-là », ils vont se dire « de toute façon, je suis toujours nul et je le serai toujours, et je ne suis qu'un nul ».
Ouais, c'est la mise en route de notre filtre à réalité.
Ce sont des filtres à réalité qui font que vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus toxique pour un individu de se dire « j'ai toujours été nul quand il a un échec » plutôt que de se dire « j'ai un échec, mais c'est pas grave, j'ai eu aussi des réussites, je vais m'en remettre et je vais voir comment faire mieux la prochaine fois ».
On pourrait voir ça comme des sortes de croyances limitantes ?
Oui, oui, ça a été décrit sous tous ces mots-là.
D'accord.
Mais si vous voulez le langage officiel, si on veut être scientifique, c'est ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Vous avez par exemple la personnalisation. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a pas mal, mais la personnalisation, ça consiste à prendre les choses pour soi. Au cours d'une soirée, je vais croire qu'on parle de moi à l'autre bout de la table. L'inférence arbitraire, c'est tirer une déduction sans preuve. J'ai bien vu que lorsque j'ai fait ça, ils avaient pensé que... Enfin, vous voyez, il y a tous les mécanismes de pensée. Alors, en thérapie, quand on s'y penche, on les découvre. C'est-à-dire, quand on fait noter, ce que je disais tout à l'heure, les cognitions, ce qu'il y a sur l'écran, au fur et à mesure qu'elles arrivent, avant ma réunion l'autre jour, je me suis dit ça. Quand mon fils est revenu de l'école avec une mauvaise note, je me suis dit ça. Quand je me suis engueulé avec ma femme, je me suis dit ça. On va se rendre compte qu'il y a des mécanismes derrière, sous-jacents, donc les logiciels, qui viennent sans arrêt polluer l'information. Et c'est ça qui rend malade. Mais on est allé encore plus loin après. Mais déjà, quand vous amenez les gens à connaître, si les gens apprennent à connaître leurs distorsions cognitives, leur filtre d'information, je peux vous dire qu'ils sortiront beaucoup plus vite du malaise. C'est une très grande technique de régulation émotionnelle parce qu'ils vont se dire « Oh là là, attends, là t'es en train de prendre pour toi les amis qui discutent à l'autre bout de la table, tu sais que t'as ce défaut, fais attention, va voir ce qu'elles sont en train de se raconter. » La généralisation, au lieu de se dire « c'est catastrophique, j'ai un échec, je n'ai que des échecs, j'ai toujours dit attention, Frédéric, tu sais que tu as tendance à généraliser, tu as eu un échec, remets-toi dans la réalité. » Donc à chaque fois, en thérapie cognitive, on fait la différence entre la croyance, ce que je me dis dans ma tête, et la réalité. Dans la réalité, qu'est-ce que tu as échoué? Tu as échoué aujourd'hui ce dossier, ok. Et la semaine dernière, tu avais échoué des choses? Non. La semaine d'avant, non plus. Bon, alors tu vas pas dire que tu échoues tout, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on va confronter nos opinions à la réalité. Et pour aller encore plus loin, puisque vous voulez tout savoir, Anne...
Je veux tout savoir.
Et vos auditeurs aussi, j'ai bien compris.
Ils me connaissent, mes auditeurs, ils savent que je veux tout savoir.
Et on va aller jusque dans l'inconscient, ce qu'on appelle les schémas cognitifs, ou le hard en informatique, c'est-à-dire votre matériel, l'ordinateur lui-même. Vous n'allez pas me dire que vous ouvrez souvent votre ordinateur pour aller voir la tête de votre disque dur. Eh ben, en psychologie, on n'ouvre pas souvent notre crâne pour aller jusqu'en notre inconscient pour savoir d'où viennent ces fameux mécanismes de généralisation et de personnalisation. En fait, ils viennent de très loin, de ce qu'on appelle des schémas cognitifs dysfonctionnels qui ont été bien étudiés par Aaron Timothy Beck, dont je parlais tout à l'heure, et puis par un de ses élèves. Il avait 5 élèves, dont un dont je recommande la lecture, d'ailleurs, qui s'appelle Jeffrey Jung. Jung, c'est jeune en anglais, c'est pas J-U-N-G, c'est Y-O-U-N-G, un livre qui s'appelle « Je réinvente ma vie », qui est un formidable livre de psychologie. Jeffrey Jung, c'est un élève de Beck, qui était à New York.
Je note.
Ah oui, ça c'est une référence majeure, qui a développé cette thérapie des schémas. Il a écrit un livre pour professionnels, et le livre que je vous ai donné, il est pour grand public, hein, « Je réinvente ma vie », aux éditions de l'Homme.
Il est toujours vivant d'ailleurs, ce Jeffrey Jung?
Je crois, oui, enfin, moi, oh, que oui, j'ai pas su, mais oui... C'est quand même un élève de Jung. Bon, il ne doit pas être jeune, mais voilà, on l'a fait venir.
Un élève de Beck, oui.
Il est venu avec l'association dont je vous parlais tout à l'heure. On l'a invité à Chambéry, en France. On s'est régalé. On a passé 2 jours avec lui. Il nous a montré ses vidéos. C'est extraordinaire. Bon, enfin, c'est quelqu'un qui a fait de la recherche. C'est un psychologue scientifique de très haut niveau. Hein. Et donc, lui, il a développé. Beck en avait déjà parlé, mais lui, il a développé. Les auditeurs verront dans ce livre de quoi il s'agit. Il y a pas mal de thérapeutes maintenant qui d'ailleurs pratiquent la thérapie des schémas, elle l'indique. Et là, on va aller jusqu'à comprendre ce qui, depuis qu'on est petit, nous fait penser qu'on est nul. Ou depuis qu'on est petit, nous fait penser qu'on est en danger ou vulnérable pour un anxieux. Ou depuis qu'on est petit, nous fait penser qu'on a exclusion. Je reprends l'exemple de l'exclusion. Si on repart, et je vais finir rapidement pour pas être trop long, sur l'exemple, je vais vous prendre l'exemple pour illustrer tout ce que je viens de dire sur le modèle. Vous prenez un monsieur de 40 ans qui vient vous voir et qui vous dit « ça fait 20 ans que je suis anxieux social, je me suis pas marié, j'ose pas aborder les femmes. Dans l'entreprise, je suis banquier, on a voulu me faire monter, être chef d'équipe, mais j'ai pas voulu parce que j'ose pas prendre la parole en réunion, je déteste diriger les gens, je suis plutôt quelqu'un qui se soumet. » Donc voilà, il vient vous voir avec un tableau d'anxiété sociale. Quand vous allez le suivre, je le fais bref, hein, je vous rassure tout de suite, vous allez vous rendre compte que ce monsieur, il va très mal à 40 ans, il a même pu faire de la dépression d'ailleurs, en plus, après 20 ans d'évolution, parce qu'il a tendance à généraliser beaucoup, à anticiper beaucoup ses échecs, à faire des inférences arbitraires, à toujours tirer des déductions sans preuve, qui l'empêchent de voir ce qu'il aurait de bon et qui lui montrent que ses échecs. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. C'est qu'ils ne voient pas toutes leurs réussites, ils voient tous leurs échecs. Et puis, je la fais toujours rapide. On va donc, au bout de 10 ou 15 séances de thérapie, mettre à jour ce qu'on appelait ces filtres de pensée, ces distorsions cognitives. Et puis, quand on va l'interroger, sur ce qui se passe quand il vient dans une réunion, et qu'on va le pousser à fond, mais ça, il faut le faire avec un thérapeute, parce que ça peut être un peu angoissant, ce qu'on appelle les techniques de flèche descendante, on va se rendre compte que sa grande angoisse, c'est au fond, s'il parle mal, s'il fait mal la réunion, d'être exclu, d'être mis dehors, de se retrouver sans emploi et SDF. Ça va jusque-là dans la tête des gens. Mais quand on va l'interroger sur son passé, on va se rendre compte que dans la cour d'école, il était exclu authentiquement, parce qu'il était trop gros, parce qu'il n'était pas du village, parce qu'il n'avait pas la même religion, parce qu'il n'avait pas la même couleur de peau, parce qu'il avait un bec de lièvre et qu'on le surnommait canard, parce qu'il avait une érotophobie, rougissait, qu'on le surnommait tomate. Et ça va revenir dans sa tête, d'ailleurs ça va déclencher de l'angoisse, et quand on va reconstituer toute sa vie, on va se rendre compte que depuis l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, il s'est conditionné comme ça, dans cette idée, que de toute façon il serait exclu par les autres. Il se trouve, peut-être aussi d'ailleurs, et ça Jung l'a bien dit, que les schémas cognitifs, il peut y avoir des tempéraments biologiques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être ce même adulte dont je vous parle, anxieux social, fait partie, souvenez-vous au début de l'interview, je vous ai parlé de Jérôme Kagan et de ses bébés hypersensibles, peut-être qu'il avait ce tempérament hypersensible. Donc voyez que le développement d'un trouble, c'est sur toute la vie, lifetime, toujours étudier toute la vie, et que quand on voit les gens débarquer à 20 ans, 30 ans, 40 ans, Il faut prendre le temps d'aller reconstituer tout ça, sans tout refaire, bien sûr, mais pour comprendre comment les choses se sont constituées. Si les gens vont jusque-là en thérapie, ils deviendront complètement capables de gérer leurs émotions, ils n'auront pas besoin de grand-chose d'autre, et ils auront eu des solutions qui seront définitives. Ce qui n'empêchera pas, 5 ans, 10 ans plus tard, un retour, parce qu'ils auront un événement de vie dramatique, ils perdront un enfant, un conjoint, je ne sais quoi, qui vont peut-être revenir en arrière. Mais quand ils reviennent, je leur dis non, c'est pas une rechute, regardez, parce que vous vous souvenez, on a fait une thérapie ensemble, et regardez maintenant comme vous avez vite réagi. Il y a des tas d'études qui montrent, dans le stress post-traumatique, on a plusieurs études qui montrent que les gens qui ont un stress post-traumatique, qui ont été violés ou qui ont été sur un champ de guerre, par exemple, qui ont été traités par EMDR ou thérapie cognitive d'exposition, qui est la deuxième technique, quand ils ont de nouveau, qu'ils ont été bien traités, hein, bien soignés par des spécialistes, qu'ils ont de nouveau 5 ou 10 ou 15 ans plus tard un autre événement traumatique, ils refont un stress post-traumatique, sauf qu'ils en ressortent 10 fois plus vite. Parce que leur cerveau a acquis définitivement des stratégies de faire face. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est ça qui fait la différence avec le médoc, avec le médicament. C'est que si vous faites un travail approfondi sur vous-même, un travail de compréhension psychologique approfondi, vous allez créer des neurones de bien-être, vous allez créer des neurones qui vont vous donner des stratégies pour faire face à vos phénomènes anxieux ou dépressifs. C'est ça qui a été décrit par les cognitivistes depuis 40 ans. Et c'est extrêmement important.
Oui, c'est vraiment fascinant. Et puis, on voit que l'homme a ce même mécanisme, d'ailleurs, dans sur d'autres thématiques. C'est-à-dire que si on a eu, par exemple, je fais un parallèle avec l'alimentation, une mauvaise alimentation enfant, on sait qu'il pourra y avoir des conséquences plus tard. Quelqu'un qui a fait du sport jeune, même s'il arrête pendant 20 ans et qui reprend, le corps a une mémoire et qu'on retrouve en fait des phénomènes. Alors, je ne sais pas si les parallèles sont bons, mais... Le corps, les émotions, l'esprit retrouvent des mécanismes similaires qui sont comme des points d'appui finalement sur lesquels ils peuvent aller, en positif ou en négatif d'ailleurs.
Le parallèle est bon parce que le point commun, c'est les lois de l'apprentissage. Vous savez que les thérapies comportementales sont basées sur les lois de l'apprentissage. Et alors, le public est toujours désespéré de savoir qu'un apprentissage, on apprend à être malade, on apprend à être anxieux, on apprend à être dépressif, mais il faut leur expliquer qu'on apprend à être bien aussi. L'apprentissage, ça marche dans les deux sens, pour les mauvaises choses, mais aussi pour les bonnes choses.
Ah bah, c'est une bonne conclusion, ça. Et ça donne de l'espérance. J'aurai encore d'autres questions. On refera peut-être une deuxième émission sur l'anxiété parce qu'il y a encore des fils à tirer. Je pensais, mais je ne veux pas vous relancer dessus parce qu'on a déjà complètement explosé notre timing. Mais une question aussi, pourquoi parfois on a des anxiétés, on se fait des scénarios catastrophes sur certaines thématiques de notre vie et pas d'autres, hein, etc., etc. Donc, on pourrait continuer à tirer des fils. Mais déjà, on en sait beaucoup. Il y a la bande dessinée, évidemment, comme ressource, tous vos autres livres. En tout cas, merci infiniment, docteur Frédéric Fanget, d'être venu très clairement, malgré votre pharyngite, nous expliquer tout ça au micro de Métamorphose.
Ce fut un plaisir, Anne. Merci.
Avec joie, vous l'aurez compris, ceux qui nous écoutent, patience, humilité, persévérance, hein, 3 vertus essentielles pour apprivoiser son anxiété, apprendre à vivre avec. Parler à un psy aussi, on l'a dit, ne suffit pas. Il faut s'entraîner quotidiennement à faire taire cette petite voix intérieure qui critique sans cesse ou nous fait paniquer. Bonne nouvelle aussi, l'anxiété se soigne. Et dans cette bande dessinée croustillante, le club des anxieux qui se soignent, comment combattre l'anxiété, coécrite avec vos co-auteurs dont on a parlé tout à l'heure, paru aux éditions Arènes. Vous allez vous offrir une série d'outils très pratiques, voilà, pour le quotidien. En tout cas, merci encore infiniment à vous et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
À
Alors les amis, vous le savez, sur Métamorphose, la santé mentale des femmes est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'en parle souvent ici parce qu'il me semble essentiel de reconnaître ce que vivent tant de femmes, souvent dans le silence. En 2024, ce sont 63% d'entre elles qui se disent en souffrance psychique, un malaise qui s'intensifie après 50 ans entre solitude, sentiment d'inutilité parfois et ménopause, des sujets qui sont encore trop tabous. Aujourd'hui, la santé mentale des femmes fait pleinement partie de la mobilisation du gouvernement qui est sponsor de cet épisode à travers ses actions pour l'égalité femmes-hommes, toutes et tous égaux. Alors non, il ne suffit pas juste de tenir bon ou de se reprendre en main. En parler, se faire aider, c'est un réflexe de santé, pas un aveu de faiblesse. Des solutions existent, comme Mon Soutien Psy, ou alors le 3114, qui est un numéro national de prévention du suicide. Pour tout savoir, rendez-vous sur santémentale.gouv.fr. Ensemble, parlons santé mentale et avançons vers une société plus juste et bienveillante. Bonjour les amis. Parfois, une petite étincelle peut tout changer. Métamorphose, c'est cette étincelle que nous partageons ensemble, épisode après épisode. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener un peu plus loin. Chaque semaine, dans les coulisses du podcast, on s'active pour préparer avec beaucoup de cœur la newsletter des petits et grands changements. Un moment suspendu, pensé comme une bulle d'inspiration que je dépose délicatement, enfin j'espère, dans votre boîte mail tous les mercredis matins. Dedans, vous y trouverez mes inspirations du moment, des contenus exclusif autour de nos invités, des recettes bien-être et bien d'autres surprises. Pour vous inscrire, rendez-vous dès maintenant à l'adresse métamorphosepodcast.com et pour vous souhaiter la bienvenue, vous recevrez dès votre inscription un petit cadeau, le livret Métamorphose, 36 pages de conseils d'experts pour éveiller votre conscience et faire grandir votre lumière intérieure. J'ai vraiment hâte de vous retrouver de l'autre côté de l'écran, dans votre boîte mail.